l'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Duarte Mesquita d'Acuña.
Que faire sans se prendre pour des donneurs de leçons ? Que faire sinon saisir cette occasion pour se souvenir de notre caractère missionnaire ? Nous avons quitté notre pays et été envoyés pour proclamer la bonne nouvelle. Peut-être qu'il nous faut oser remettre en cause les « on a toujours fait comme ça » ici. Nous reprenons, chers auditeurs, les mots du père Emmanuel Popon, prêtre des missions étrangères de Paris, dans l'édito de la revue MEP du mois de novembre dernier, pour les soumettre aujourd'hui à un autre prêtre missionnaire dans ce pays, le père Antoine de Montjour. Un numéro qui porte d'ailleurs un titre qui pourrait être le fil rouge de notre entretien, je cite « Le Japon, la force des traditions ». Bonjour, père Antoine de Montjour.
Bonsoir.
Alors, père, je vous propose de retrouver dès maintenant Louis Ducret pour les nouvelles des églises d'Asie. Bonjour, Louis.
Bonjour, Duarte.
Asia Bibi est à l'honneur puisqu'elle appelle à protéger les victimes des lois sur le blasphème au Pakistan.
Exactement, Asia Bibi, cette femme catholique pakistanaise qui a échappé à la peine capitale après avoir été accusée de blasphème et qui vit aujourd'hui au Canada, a appelé à la protection des victimes des lois sur le blasphème dans son pays. Dans sa première interview vidéo, depuis qu'elle a été acquittée par la Cour suprême du Pakistan en 2018 avant de quitter le pays, elle a appelé les agences gouvernementales pakistanaises à enquêter rigoureusement sur les affaires liées au blasphème. Citation, protéger les innocents plutôt que de les battre dans les commissariats. Les innocents doivent être libérés. Des longues peines pour des accusations sans preuve, c'est une grande injustice dans notre pays. Ils ne comprennent ni la Bible ni le Coran, même après les avoir étudiés. Au nom de Dieu, ouvrez vos cœurs à la pitié. Le Pakistan n'est pas que pour les musulmans, je me sens en colère quand de bons musulmans sont visés pour avoir sympathisé avec des minorités religieuses démunies. Le blasphème reste une question sensible dans la société pakistanaise. Au moins 1949 personnes ont été accusées dans le cadre des lois sur le blasphème.
Alors que Wei Jingsen souligne la différence entre les manifestations actuelles et le mouvement de 1989 en Chine.
Tout à fait, Wei Jingsheng, célèbre dissident chinois et symbole du mouvement des revendications démocratiques dans le pays, aujourd'hui exilé aux États-Unis, insiste sur les différences entre les manifestations actuelles en Chine et les événements de Tiananmen en juin 89. La politique actuelle de prévention contre la pandémie en Chine affecte tout le peuple chinois, c'est pourquoi le mouvement a le soutien de la sympathie et la sympathie de la plupart des Chinois, affirme-t-il. Alors que les médias officiels censurent les événements de ces derniers jours, les milieux les plus nationalistes commencent à dénoncer les forces étrangères derrière le déclenchement des émeutes. Trouver un coupable extérieur à des problèmes intérieurs est une stratégie établie de longue date par le régime chinois et employée notamment lors des manifestations pro-démocratie de Hong Kong. Les appels à la démission de Xi Jinping et au retrait du PCC ont été entendus. Un signe qui signifie pour lui que le public ne fait plus confiance en parti. Alors qu'en 1989, les manifestations appelaient à une réforme interne du parti sans remettre en question sa place. Wei Jingsheng rappelle également qu'il y a 33 ans, l'armée a réprimé les manifestations avec la force. Citation, « Aujourd'hui, le PCC n'ose plus utiliser l'armée de peur qu'elle n'obéisse pas à ses ordres. Mais il y a une surveillance de pointe et une répression ciblée avec précision » ce qui pourrait éviter une réaction internationale défavorable.
Alors qu'au Karnataka, un groupe chrétien demande la protection de la police durant les fêtes de Noël.
Une organisation importante chrétienne qui a expliqué qu'il voudrait que la police assure la sécurité des églises d'État durant la saison de Noël. Citation de son fondateur, « Le soir et durant la nuit, les chrétiens craignent de participer au chant de Noël et aux visites aux autres membres de l'église pour leur adresser leurs meilleurs vœux parce qu'ils craignent des attaques. » Fin de citation. La minorité chrétienne au Karnataka a subi de nombreuses attaques depuis l'entrée en vigueur de la loi anti-conversion le 17 mai dernier. Notamment deux autres incidents récents avec des nationalistes hindous qui ont interrompu des célébrations en accusant les communautés de prendre part à des conversions religieuses illégales. Monseigneur Pierre Machado, archevêque de Bangalore, le 6 décembre dernier a ainsi témoigné, citation, un groupe chrétien à Bangalore a demandé à la police sa protection durant les fêtes de Noël. Nous faisons pleinement confiance à la police locale. Oui, il y a un certain sentiment de peur parmi les chrétiens depuis que le gouvernement de l'État a voté la loi anti-conversion. Mais concernant les célébrations chrétiennes, nous espérons qu'elles se dérouleront paisiblement dans la région. L'État du Karnataka a signalé 39 attaques contre la communauté chrétienne en 2021. Les chrétiens représentent environ 1,8% de la population de l'État sur 68 millions.
Merci, Louis Ducret. C'est en 1992 que le père Antoine de Montjour est parti pour le Japon, où il aura passé près de 30 ans. 30 ans à accompagner les chrétiens dans un pays de tradition. Qu'en est-il de celle de Noël dans ce pays? Y a-t-il même une tradition de Noël festif et religieux avant tout? Que lui a appris aussi son expérience missionnaire sur le sens de la naissance de Jésus? Nous y répondons sans tarder. Alors, père Antoine de Montjour, vous avez été ordonné le 27 juin 1992 et vous êtes parti pour la mission le 15 octobre de la même année, deux mois environ avant Noël. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier Noël au Japon?
Oui, je me souviens très bien de mon premier Noël, donc chez un confrère à Kobe. Donc c'est un grand port à 450 km au sud de Tokyo. Et donc là, je ne pouvais absolument rien faire, ne parlant pas un mot de japonais. Mais j'ai écouté de très beaux chants de Noël dont les mélodies me rappelaient plutôt les nôtres. Mais surtout une communauté très fervente et surtout, grande surprise, après la messe de Noël, elle-même très classique, il y avait un moment de rencontre entre les gens. On a pris un chocolat chaud, on a partagé jusqu'à je ne sais pas quelle heure, minuit, une heure du matin pratiquement, ce à quoi je n'étais pas du tout habitué en France, puisque généralement ce sont les familles qui se retrouvent en France après la messe de Noël. Quelquefois, il y a des services dans la rue ou dans les hôpitaux en France, hein, j'ai déjà vu ça comme séminariste, mais pas au Japon. C'est vraiment la famille de la communauté chrétienne qui se retrouve après la messe de Noël.
Et alors, vous étiez accompagné de vos confrères ou peut-être d'un confrère à ce moment-là, vous...
Oui, le père donc Gérard Guéno, qui est toujours au Japon, très actif, c'est lui qui m'avait accueilli pour 2-3 jours au moment de Noël, et m'a fait donc découvrir mon premier Noël au Japon.
Et alors, les débuts en mission pour un prêtre missionnaire, c'est évidemment cet apprentissage de la langue. Et je crois que c'est un moment choisi par l'un de vos professeurs de japonais pour vous demander, ainsi qu'au groupe qui vous accompagnait, si Noël signifiait quelque chose pour vous, les chrétiens. Comment avez-vous reçu cette demande et est-ce qu'elle vous a déjà orienté ou éclairé sur la société japonaise?
D'abord, j'avais été surpris en arrivant au Japon. Dès novembre, les illuminations, décorations de Noël, très classiques, on trouve ça à Paris, hein, sans problème. Mais donc, il y en a partout au Japon, dans les grands magasins, dans les rues. C'est un moment de fête pour les Japonais. Alors, à quoi ils raccordent cela? Ils appellent ça... Christmas, on reconnaît Christmas, hein, plus ou moins, bon, Noël, en anglais. Mais pour eux, c'est simplement un moment de fête. Et donc, j'ai eu un jeune professeur de japonais à l'école de langue qui, voyant l'intérêt que nous portions à ce qu'il faisait, lui, chaque année au moment de Noël, s'est un petit peu étonné parce que nous étions des prêtres, il y avait une religieuse, et il nous a dit, tiens, mais quel est le rapport des chrétiens que vous êtes avec Noël, enfin avec Christmas? Christmas. On lui a dit, non, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait poser, monsieur. C'est, pour nous, c'est la fête de la naissance de Jésus. Ah bon, nous dit-il, tout surpris. Enfin, quelqu'un de 27 ans, il avait 27 ans, peut-être 28, et il ignorait le lien entre cette fête de Noël, qui pour nous, nous paraît évidemment liée à la naissance de Jésus-Christ, quoique peut-être qu'en posant aujourd'hui la question en France, on aurait des réponses bizarres, mais au Japon, vraiment à cette époque-là, donc en 92, c'était quelque chose de déconnecté, quoi. Donc c'est vraiment dans le milieu chrétien, et bien sûr, il y a beaucoup de Japonais qui savent que c'est lié au christianisme, à la naissance de Jésus, mais si on n'explique pas, eh bien, des jeunes japonais peuvent complètement passer au travers, je dirais, des fêtes de Noël pendant plusieurs années, en ignorant complètement l'origine de cette fête.
Et alors, précisément, vous avez esquissé les réalités dont on va parler maintenant. Noël en Occident renvoie à cette idée de fête de famille qui précède et suit la messe, ou le temps paroissial. Il en est de même au Japon. Le soir de Noël, pour une communauté chrétienne, ça ressemble concrètement à quoi ?
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après la messe de Noël, en fait, on se retrouve dans des salles paroissiales pour partager un chocolat chaud, voire plus, un repas. Dans certaines paroisses, on propose même un peu de boissons alcoolisées, et encore. Mais ce n'est pas un moment de famille, ou plus exactement, c'est le moment de la famille chrétienne qui se retrouve. Mais si on prend le sens famille, parents, enfants et proches, disons, au Japon, c'est au moment du Nouvel An. Donc c'est un petit peu l'inverse par rapport à ce que nous connaissons traditionnellement, je dis bien traditionnellement en France. Les familles se retrouvent facilement, normalement, autour de Noël, et plus avec les amis à l'extérieur autour du Nouvel An. Au Japon, c'est l'inverse. Donc c'est Noël, c'est vraiment un lieu de... pour les chrétiens en tout cas, de la famille des chrétiens. Pourquoi ? Parce que beaucoup de chrétiens viennent de familles qui ne sont pas chrétiennes. Il n'y en a que un ou deux dans la famille qui est chrétien. Donc pour eux, ils ne veulent pas imposer à leur mari ou à leur épouse ou à leurs enfants ou à leurs parents de fêter quelque chose qui ne les intéresse pas spécialement, qu'ils respectent mais qui ne les intéresse pas spécialement. Donc ils le font à la paroisse.
Et alors précisément, donc le soir de la communauté, comme curé de paroisse, vous avez été témoin de l'engagement de tous, c'est-à-dire on vient à la messe de Noël et puis on participe à la réunion qui suit, où évidemment on va spontanément voir le curé, tout le monde organise, il y a une implication personnelle dans cette fête.
Bon, d'abord les paroisses ont l'habitude au Japon de tout préparer minutieusement à l'avance, avec des réunions de préparation, même plutôt trois qu'une, et y compris donc la partie, comme ils disent, donc le rassemblement qui suit la célébration. La célébration, en fait, est ouverte. Il n'y a pas que les chrétiens qui y participent. Souvent, les familles ou les amis des chrétiens viennent à cette occasion, quand c'est possible. Et du coup, ça nous conduit, en tout cas pour les prêtres qui célébreront la messe ou les messes, du 24 décembre au soir, en pensant que le 25 est un jour ordinaire au Japon, c'est pas un jour férié, donc les gens se lèvent tôt le lendemain pour aller au travail. Donc on est obligé de s'y calculer, de tenir compte de cela, de pas faire les choses trop tard, et donc d'orienter l'homélie, l'accueil des gens pour des non-chrétiens, afin qu'ils puissent comprendre un petit peu ce qui se passe, le sens de la crèche, le sens de cette réunion de famille autour de la naissance de Jésus, et pourquoi encore 23 années après, pour nous, cette naissance, c'est quelque chose d'important.
Eh bien, merci Père Antoine de Montjour, donc prêtre missionnaire au Japon, aujourd'hui responsable du service des prêtres étudiants de la rue du Bac. Nous écoutons ensemble un chant de Noël japonais. venons d'entendre un chant de Noël japonais et nous prolongeons notre découverte de ce temps tout particulier au pays du soleil levant en compagnie du père Antoine de Montjour qui fut missionnaire et qui est missionnaire dans le pays depuis un certain nombre d'années. Alors père Antoine de Montjour, on a évoqué le contexte de Noël dans une paroisse au Japon. On sait que le pape François n'a de cesse d'exhorter l'Église à être missionnaire. C'est une dimension qui est importante pour l'Église missionnaire, pour l'Église japonaise, et tout particulièrement à Noël.
Oui, puisque c'est l'occasion finalement de rencontrer beaucoup de gens qui sont attirés par l'aspect festif de Noël, par tradition, donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Il y a un écho dans la société de fêtes, et donc de le raccrocher non seulement à la naissance de Jésus, mais de montrer qu'à cette occasion, on peut faire aussi quelque chose d'un peu plus, familial et humain, et donc essayer d'inviter les gens à faire un geste, par exemple un don, un partage avec des SDF, participer à une maraude, des choses comme ça, qui s'organisent assez facilement dans les paroisses, parce qu'il y a des groupes qui font ça pendant toute l'année, et qui, pour Noël, font un appel aux dons et font aussi des distributions. Enfin, dans la dernière paroisse où j'étais, il y avait... Alors, ce n'était pas le jour même de Noël, parce que les gens avaient un travail le lendemain. C'était le samedi d'avant ou le samedi suivant. Il y avait un accueil pour les SDF, avec une distribution de cadeaux, proposition d'un bain, etc. Enfin, coupe de cheveux, enfin, il y avait repas partagé. C'est très sympathique, ce n'est pas des grands nombres, mais c'est vraiment un lieu de partage. On a vraiment l'impression de vivre Noël pour tous.
Donc Noël pour tous, Noël avec nos frères. Alors Père Antoine de Montjour, évidemment l'incontournable de Noël aux missions étrangères de Paris, c'est cette magnifique crèche japonaise qui peut être évidemment visitée dans le cadre de l'exposition des crèches du monde jusqu'au 7 janvier. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur l'histoire de cette crèche? Comment est-elle née?
Bon, traditionnellement au Japon, on fait des crèches, je dirais, de style souvent importé d'Italie. En français, on dirait style sulpicien. Bon, c'est beau. Pour un chrétien japonais, pour eux, c'est une crèche chrétienne. Hein. Ils ne mettent pas l'aspect sulpicien italien et autres. Pour eux, c'est quelque chose qui les rattache à l'Église universelle. On a la même manière, pas seulement de célébrer, mais aussi d'exprimer Noël à travers, par exemple, une crèche. Bon. Mais il y a quand même une réflexion locale qui se fait. Alors, tout de suite, vous connaissez ce grand mot, inculturation. Enfin, essayer de relire un certain nombre de choses dans la culture du pays. Et c'est ainsi qu'avec des paroissiens de la paroisse de Kawagoe, dans la banlieue de Tokyo, nous avons été invités à réfléchir sur comment faire une crèche qui soit vraiment typiquement japonaise, qui parle tout de suite à un japonais, qui l'étonne aussi, mais qui lui parle parce que ça fait partie de sa culture, sans avoir à faire une explication sur Joseph, Marie, sur la Bible. Non, d'abord, quelque chose qui attire leur regard, dit, ah, c'est comme c'est notre tradition. Alors, nous avons ainsi choisi un style de crèche qui s'appelle Hina Matsuri. Ça veut dire fête des poupées, qui est une fête traditionnelle au Japon tous les 3 mars de chaque année, destinée plutôt aux petites filles, et que nous avons donc relu, réinterprété, grâce à un artisan, enfin à des artisans, un atelier de poupées dans la banlieue de Tokyo. Et donc on a essayé de concevoir une crèche respectant le style japonais, tout en exprimant nos personnages, enfin c'est-à-dire la Sainte Famille, les mages qui visitent, et puis le peuple qui vient admirer la naissance de Jésus. Tout ça, évidemment, suivant des critères japonais.
Et alors, comment se compose précisément cette crèche?
C'est une crèche qui est comme un escalier. Alors, il y a 3 marches. En haut, traditionnellement, il y a l'empereur et et l'impératrice, et là donc il y a Joseph dans un habit assez simple, Marie et puis Jésus. Alors c'est déjà ça qui attire le regard d'un japonais, il dit tiens, qui est ce troisième personnage qui normalement n'est pas sur nos escaliers traditionnels. Bon, ça c'est l'étage du haut. L'étage du dessous, ce sont les mages. Donc là on a choisi, c'est très facile, des grands seigneurs japonais qui font très bien pour représenter les mages. Alors on a mis un cheval, parce que évidemment mettre un dromadaire dans une crèche japonaise aurait fait un peu bizarre, puisqu'il n'y en a pas au Japon. Mais là, un cheval magnifiquement harnaché, donc qui fait comprendre qu'ils viennent de loin. Et puis en bas, on n'a pas mis des bergers, parce qu'il n'y a pas de bergers au Japon, ni de moutons, mais on a mis des gens du peuple, traditionnellement, à travers le jardinier, un musicien, et puis quelqu'un qui fait le ménage, le balayeur. Et ce sont des gens vraiment qui sont les servants dans la société japonaise et qui donc rassemblaient pour admirer la naissance de Jésus. Alors ce Jésus en particulier, on l'a mis déjà un petit peu grand, debout. Donc ça peut étonner, il y a des gens qui cherchent un bébé et qui voient un petit enfant. Alors ça nous rappelle, nous, les représentations de la Renaissance en Europe, où on mettait déjà un Jésus debout sur les genoux de Marie, avec une tête pratiquement d'adulte, qui montrait que Jésus intégrait dès sa naissance toute sa vie, à la fois parmi nous, et déjà même sa résurrection et le fait qu'il règne sur l'Église. Et puis, nous avons pris aussi en compte... dans le bouddhisme, le fait que le Bouddha, à sa naissance, de la même manière, s'est mis debout, a fait quatre pas dans les quatre directions et sept pas vers le nord, montrant sa possession, enfin sa prise de possession du monde. Voilà. Alors Jésus, nous, on l'a montré en ouvrant, qui ouvre les bras sur les gens qui se présentent, que ce soit aussi bien les seigneurs que les gens du peuple.
Et alors, vous avez envoyé, une photo de cette crèche à ceux qui l'ont faite, hein, telle que exposée aux missions étrangères. Ils sont fiers de cette crèche.
Alors oui, c'est donc les Sekiguchi, le couple d'artisans qui tiennent donc cet atelier de poupées. D'abord, a mis beaucoup de temps à comprendre ce qui est assez facile à comprendre parce que il ne savait pas ce que c'était qu'une crèche. Une crèche en japonais, ça se dit umagoya, c'est-à-dire écurie. Alors, il ne voyait pas très bien le rapport entre une écurie et le christianisme. Donc, il a fallu expliquer tout ce que cela signifiait, ce que on voulait exprimer. Et ils sont vraiment entrés dans le jeu. Alors, ça a pris 2 ans pour réaliser cette crèche. Mais ils ont été en fait tellement fiers de la réalisation, parce qu'ils voyaient que ça nous plaisait, et que ça vraiment traduisait ce qu'on souhaitait nous-mêmes faire dans une tradition japonaise, qu'ils m'ont demandé l'autorisation, notamment de mettre une photo dans une revue locale qui concerne surtout les ateliers de fabrication de poupées à Konos, qui est cette ville donc près de Tokyo, qui est spécialisée. La rue principale s'appelle la rue des poupées. Bon. Et donc cette revue a une belle photo de notre crèche. Et puis la NHK, qui est la télévision nationale japonaise, fait tous les ans une émission sur donc au mois de mars sur les crèches, sur le Hinamatsuri. Et eux ont voulu intégrer cette réalisation chrétienne en disant, un regard particulier sur quelque chose qu'on peut exprimer à travers nos traditions dans la religion chrétienne.
Et vous êtes personnellement fier ou heureux de cette crèche? Elle représente quelque chose pour vous personnellement?
Je suis très heureux pour les chrétiens qui se sont beaucoup investis là-dedans, qui ont beaucoup cogité pour essayer de voir comment on pouvait faire, parce que c'était pas évident, et moi-même je me sentais un petit peu démuni dans ce domaine. Moi, les poupées, j'y connais rien. Et donc, grâce à eux et à ce couple d'artisans qui ont été très patients aussi, qui sont vraiment entrés dans le jeu, on a réalisé quelque chose qui, je crois, est beau. Alors après, est-ce que ça sera compris? Comment ça sera reçu par la suite? Je ne sais pas.
Alors, Père Antoine de Montjour, très très rapidement, peut-être une leçon que vous avez appris sur Noël de ce temps, peut-être l'idée principale du sens de Noël tel que vous l'avez vécu au Japon.
Au Japon, je crois que c'est l'accueil après célébration de tout ce monde non chrétien et de ce partage que l'on fait. Donc la famille de Jésus-Christ est une famille ouverte.
Eh bien, merci infiniment, Père Antoine, de bonjour. Alors, avant de nous quitter, je donne rapidement rendez-vous aux auditeurs pour visiter cette exposition des crèches du monde aux missions étrangères de Paris, donc jusqu'au 7 janvier. Et bien évidemment, dans le cadre du réveillon missionnaire qui aura lieu le 31 décembre, nous vous invitons à confectionner des cadeaux, à les ranger dans des boîtes à chaussures et à les déposer à l'accueil des missions étrangères tous les jours de 8h30 à 19h. Ils seront distribués aux plus nécessiteux d'entre nous la nuit du Nouvel An. Alors voilà, merci Père Antoine de Montjour pour
merci
cette ouverture à Noël. Et bien évidemment, chers auditeurs, nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orient Extrême.